Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Malraux, ministre.
À Paris, dans la brume matinale non encore complètement dissipée, le jardin des Tuileries a connu une animation insolite. Branle-bas de combat. Monsieur André Malraux, ministre des Affaires culturelles, dirige les opérations. Les statues bougent.
De Gaulle savait que sa présence donnerait du relief à ses gouvernements. Et en effet, de 1958 à 1969, il maintint Malraux 11 ans dans ce vaste bureau de la rue de Valois qu'il aimait arpenter de long en large. C'était le seul sport qu'on lui connût. Il était ministre d'État en charge des affaires culturelles, appuyé sur ce dont il disposait, une faible administration, quelques collaborateurs de grande valeur et sa parole qui captivait. Malraux avait décidé de tourner le dos au négligeable et de se consacrer à l'essentiel. Le premier objectif relevait de l'ordre politique, puisqu'il s'agissait de la grandeur de la France. Et la France n'est grande que lorsqu'elle l'est pour le monde. Le second se tenait au-delà de la politique. Il s'agissait aussi de servir l'art, en offrant à tous des images qui nient notre néant. Chaque ville où se construisait une maison de la culture verrait son âme changer. Chaque habitant pourrait désormais rencontrer plus grand que ce qui l'écrase. « Croyez-vous que j'ai le temps de m'amuser ?» Malraux était capable de travailler beaucoup. Mais souvent, en 1966 particulièrement, les chiens noirs de la dépression lui sautaient à la gorge. Sa présence au gouvernement se faisait alors absence. La force implacable de la mort le hantait, mais aussi la puissance de la jeunesse. Or, le mouvement de mai 68 l'en sépara cruellement. Ceux qu'on commençait à nommer les créateurs ne voulaient plus s'en remettre à la sagacité d'un seul, mais à la force du groupe de pression qu'il constituait dorénavant, le ministère changeait non seulement d'axe, mais de clientèle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Charles-Louis Foulon, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes 40 ans exactement après la disparition d'André Malraux. Alors vous avez une double expérience d'historien de la France libre, d'historien, c'est un autre monde, de François Mitterrand, votre dernier livre chez Ouest France. Vous avez aussi, je voulais vous questionner à ce sujet, une expérience de fonctionnaire au ministère de la Culture. Il y a un endroit où vous avez travaillé longtemps, c'est le mobilier national, c'est ce qui meuble les ambassades, c'est l'image de la France.
Et c'est pour les résidences présidentielles, tout le mobilier, jusqu'aux couvertures des lits des gardes républicains.
Alors maintenant, on va prendre de la hauteur, si vous le voulez bien, Charles-Louis Foulon. C'était le représentant du général. C'était le ministre de la parole. D'ailleurs, quand De Gaulle avait repris le pouvoir en 1958, il l'avait nommé à un moment ministre de l'information, ce qu'il avait fait déjà au moment de la libération.
Oui, et il n'y est resté que 28 jours, puisqu'il a eu l'audace de dire « Si j'étais un jeune musulman, je serais sans doute avec les félagas, mais je serais heureux de parler avec l'homme qui a eu beaucoup d'idées pour l'indépendance des pays. » Cette phrase a été insupportable pour les partisans de l'Algérie française, et donc il a été relevé de ses fonctions et remplacé par Jacques Soustelle. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a orienté vers la politique culturelle, en le laissant d'abord comme ministre délégué auprès du président du Conseil, puis en taillant pour lui un ministère, comme l'a dit Michel Debré.
Premier ministre à l'époque.
Premier ministre. Et donc, on lui a taillé ce ministère chargé des affaires culturelles, en lui donnant la portion congrue, 2 à 3% du budget et des effectifs du ministère de l'Éducation nationale. Donc, en réduisant son périmètre le plus possible, mais en le laissant effectivement l'homme de la parole gaullienne.
Ministre d'État, néanmoins, ce qui ne coûtait rien. Et il était à la droite du général au Conseil des ministres.
Pour l'éclairer par ses fulgurantes improvisations.
Dans le périmètre, excusez-moi de parler administration, ça intéressait modérément André Malraux, mais il n'y avait pas ce qui concernait la jeunesse et les sports, il n'y avait pas ce qui concernait la radio et la télévision.
Alors, il y avait de toute façon un haut commissariat à la jeunesse et des sports qui réussissait à avoir en général 10 ou 20 fois plus de crédits que Malraux, 90 millions de crédits pour les maisons des jeunes et de la culture et moins de 2 millions de crédits pour le lancement des maisons de la culture, cathédrale du XXe siècle. Donc, Malraux avait peur qu'on confonde la haute culture et la culture populaire, les maisons des jeunes et de la culture. Et c'est pour ça que les associations qui relevaient ça ont été renvoyées dès 1964 du côté de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports.
Les grandes opérations dont le public était ébaubi à l'époque, c'était des opérations de communication, je pense à l'installation du statut de Mayol aux Tuileries. On entendait en exergue de l'émission cet épisode rappelé. Je pense au ravalement des façades des monuments de Paris. Je
dû
pense
pour
au
l'essentiel
plafond de l'Opéra
à M. Chudrot, malgré tout. Et appliqué par Malraux au niveau des bâtiments publics, ce qui a permis au général de Gaulle de dire comme notre capitale est belle et la couleur de la capitale française, Malraux en rêvait dès les années 30. Il y a un très beau texte de lui sur le fleuve rose et sur tout ce qu'on doit donner à tout le monde, y compris aux pauvres des banlieues.
On doit donner aussi aux Japonais la possibilité de voir la Vénus de Milo. Ça, c'est encore un grand coup. Et les Américains, à commencer par le couple présidentiel, seront impressionnés de voir dans leur pays, 1963, la Joconde elle-même.
Monsieur le Président, voici donc le plus célèbre tableau du monde. Chaque année, quelques pauvres folles se croient Mona Lisa, alors qu'aucune ne se croit une figure de Raphaël, de Titien ou de Rembrandt. La mortelle au regard divin triomphe des déesses sans regard, que la possession impose aujourd'hui de grands devoirs, chacun le sait. Vous avez bien voulu, Monsieur le Président, parler d'un prêt historique lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis. Je répondrai parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous. On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre. Ils sont réels, bien qu'exagérés. Mais ceux qu'ont pris les gars qui débarquèrent un jour à Romanche.
Et il évoque les jeunes Américains, les jeunes soldats américains aussitôt. Mais revenons, si vous voulez bien, au niveau politique, qui n'était pas celui où se situait le plus généralement Malraux. Les esprits chagrins de l'Assemblée. Ce sont ces députés à qui il faut parler budget, à qui il faut répondre lorsqu'ils posent des questions techniques.
Oh, je vais vite me débarrasser des chiffres, leur disait-il en général, à propos de l'enseignement artistique. Il disait qu'on me montre le malin qui me dira comment on peut enseigner l'art, il n'y croyait pas, et de la même façon pour la musique où le budget était petit, il disait « on ne m'a pas attendu pour ne rien faire ».
Mais vous parlez du budget des affaires culturelles comparé à celui de l'éducation nationale, le budget des affaires culturelles.
C'est 0,39%, ça n'a jamais été plus que cela, ce qui a permis à un secrétaire général de la présidence de la République de dire « Malraux n'avait pas les moyens d'une vraie politique, et donc il se consolait avec des coups réussis ». La Joconde était une opération diplomatique fantastique, et le nombre de visiteurs, que ce soit à New York et à Washington, puis la visite ultérieure que la Joconde a pu faire à Tokyo, accompagnée de Malraux qui n'était plus ministre, ont été des succès évidents du rayonnement de la culture française.
Oui, mais dans les régions, en province, comme on disait à l'époque, une grande politique aussi, qui peut être comparée aux politiques d'équipement en tout domaine que la Ve République débutante voulait mener. La politique, vous l'avez évoqué, des maisons de la culture. La première qui ouvre petitement, c'est dans le cadre d'un musée au Havre. On vient de publier aux presses universitaires du Havre les actes d'un colloque auquel vous avez participé et qui est consacré à l'histoire de cette fameuse maison de la culture. On va entendre un micro-trottoir avec des habitants du Havre et ensuite un extrait du discours de l'ouverture de la maison d'Amiens en 1966.
Dites-moi, monsieur, est-ce que vous visitez les musées d'habitude?
Oh, si, encore assez souvent, lorsqu'il m'est l'occasion de me donner.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci?
Oh, ben, vous savez, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, que les gens commencent à s'habituer, parce que c'est quelque chose vraiment d'inédit, n'est-ce pas?
Est-ce que vous êtes habitué vous-même?
Oui, mais on commence à s'habituer, voyez-vous, ainsi que les gens de la ville, ici du Havre, tout le monde commence à s'habituer, les gens ils commencent à en être fiers un peu de l'œuvre.
Bien entendu, il convient que les gens s'amusent, et bien entendu, que l'on joue ici même, ce qui peut amuser tout le monde, nous en serons tous ravis. Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement. C'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions. Et plus tard, par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde. Au fond, qu'est-ce que l'imaginaire, depuis que le monde est monde, c'est probablement ce que l'homme a créé en face des dieux. Le destin est là avec la naissance et la vieillesse et la mort, et quelque chose est là aussi qui est cette communion étrange de l'homme avec quelque chose de plus fort que ce qui l'écrase. Il y aura toujours ce moment prodigieux où une espèce de demi-gorille levant les yeux se sentit mystérieusement le frère du ciel étoilé.
Et le demi-gorille d'Amiens, par exemple, levant les yeux sur la maison de la culture, va se sentir le frère du ciel étoilé comme l'homme du Moyen-Âge devant la cathédrale.
Et il réfléchira sur ce que dit Malraux, à savoir que la culture, ça n'est fait pour que les gens s'amusent. Depuis, la culture du divertissement a sans doute connu de meilleurs jours. Et la haute culture, qui était vraiment celle que souhaitait Malraux, elle l'a sans doute été un peu moins, mais lui-même disait de la jeunesse, c'est entre 18 et 20 ans qu'on achète sa culture, et beaucoup de gens n'achètent rien.
Alors, il y a eu Amiens, il y a eu Grenoble, il y a eu Firminy, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Rennes, qui vous est chère, il y a eu Bourges.
Et Bourges est l'endroit où le général de Gaulle est venu dire que, effectivement, Malraux était le mieux placé pour dire ce qu'était la culture et pour la développer pour les gens. Mais la célèbre phrase sur le coût d'une maison de la culture, c'est le coût de 25 kilomètres d'autoroute, n'a pas suffi à persuader les finances qu'il fallait qu'il y ait 90 maisons de la culture dans les départements. Le rapport de l'inspection des finances, c'est le nom même des maisons de la culture est trop ambitieux.
Mais c'est autre chose qu'un théâtre municipal, c'est autre chose qu'une université.
C'est le lieu où, à la différence de l'université qui, selon Malraux, est l'endroit où on apprend, la connaissance est à l'université, il le dit dès 1959, l'amour peut-être est à nous. Donc il espère que son ministère, c'est le ministère où on apprend à aimer, et on connaît sa définition de l'amour, tu m'es nécessaire. Et donc ce qu'il souhaite, c'est que chaque Français aime ou des tableaux ou des œuvres musicales, et que ils disent de ces tableaux, de ces œuvres musicales, tu m'es nécessaire.
Mais je ne veux pas dire que vous avez un rapport d'amour avec Malraux, mais Malraux insistait aussi beaucoup sur l'admiration. Vous avez un rapport d'admiration.
Oui, mais enfin aussi un regard d'historien et le souvenir d'un mot admirable de celui qui a fondé le musée d'art moderne, Jean Cassou, qui fut avant commissaire de la République, héroïque au moment de la libération. Jean Cassou, poète et donc haut fonctionnaire de la culture, et qui disait « Malraux et De Gaulle, c'est un coït intellectuel où il se croit Napoléon et Chateaubriand, il se trompe, mais pensons aussi aux mots de Florence Malraux sur son père. Charles de Gaulle est la seule femme que mon père ait aimée.
Mais dites-moi, je ne sais pas si vous allez rester dans ce rapport d'admiration quand je vais vous faire parler, avec la troisième symphonie de Landowski à l'appui, de la politique musicale de Malraux. Madeleine Malraux, que vous avez citée, la femme de Malraux à l'époque était pianiste.
À qui il disait parfois « tapez sur votre piano ».
Et Landowski a été nommé au titre de chef du service de la musique et il s'est mis à imaginer lui aussi un plan de maillage, pas exactement celui des maisons de la culture et des conservatoires avec des délégués musicaux, et peut-être a-t-il pensé aussi que son œuvre méritait d'y être valorisée. Cette symphonie numéro 3 est ici interprété par l'Orchestre National de France soi-même, sous la direction de Georges Prêtre.
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
40 ans après sa disparition, André Malraux, ministre entre 58 et 69 des Affaires culturelles et donc de la musique en France. Charles-Louis Foulon, vous connaissez très bien cette période, vous savez aussi ce qui se passe dans le secret des bureaux et des antichambres. Il paraîtrait que Boulez serait venu dans le bureau de Landowski et lui aurait dit « moi je veux bien travailler parce que je suis quand même un des compositeurs qui compte en France ». Et Landowski, est-ce que c'est exagéré de dire qu'il pensait la même chose de lui ?
Il est évident que l'académique Landowski a gagné dans l'opération musicale. Il y avait eu un plan qui se préparait doucement, trop doucement peut-être, puisque la formule de Malraux devant les parlementaires, c'était « on ne m'a pas attendu pour ne rien faire ». Donc, il commençait à faire lentement, mais lui-même avait des soucis de santé qui s'aggravaient.
Mais il avait avalisé le plan de Landowski, c'est-à-dire ce maillage territorial
du pays. Et vraisemblablement, la politique de Landowski, il ne l'aurait pas choisi s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Le décret nommant Landowski responsable de la musique a été signé 2 jours après qu'André Malraux ait été placé à l'isolement. Il est vraisemblable que Malraux, bien portant, aurait choisi Boulez. Il aurait peut-être eu tort, car la politique générale pour les régions, les conservateurs régionaux de Landowski, a été une politique efficace, mais comme l'a dit Gaëtan Picon, qui à ce moment-là aussi a été démissionné de la Direction Générale des Arts et Lettres, l'académisme reprenait le dessus. Je rappelle qu'après ces temps d'administration classique, M. Landowski est devenu aussi le chancelier de l'Institut de France.
Dites-moi, vous parlez de l'isolement, on est en 1966, à cette date dans laquelle a été placé un moment André Malraux, la présence devient une absence. Il faut aller chercher les sources de cette très profonde dépression dans la disparition brutale en 1961 dans un accident de voiture des 2 fils d'André Malraux.
Dans la semaine qui suit le drame, il demande à Madeleine de l'accompagner à l'Élysée, à la réception offerte en l'honneur des souverains belges.
Et André m'a dit, quand nous allions vers le général et Madame de Gaulle, nous faisons peur. Nous faisons peur. Et il me l'a répété 2 ou 3 fois parce que lui-même, il ne se sentait pas autrement que apeuré. Enfin, c'était un besoin de s'exprimer, de sa peur à lui, d'être visible, de que l'on puisse déceler quelque chose dans lui, de sa douleur.
À ceux qui lui adressent un mot de sympathie, il répond « parlons d'autre chose ». Et il se remet au travail. Il va monter encore quelques grandes expositions, comme l'hommage à Picasso.
En 66, il y a eu cette grande rétrospective et Malraux a fait sonder Picasso pour lui demander s'il avait des préférences, des vœux à émettre, etc., etc. Picasso n'a jamais rien répondu. Et finalement, Malraux est allé vers l'inauguration et le matin même, il a reçu un télégramme de Picasso lui disant « Croyez-vous que je sois mort ?» Malraux lui a répondu à un télégramme en lui disant « Croyez-vous que je sois ministre ?»
Il avait une phrase qui était comme ça: ce que je veux est fou, ce que je peux est nul.
Peu à peu, la souffrance qu'il prétend nier le ronge. La statue se fracture de l'intérieur.
Progressivement, il s'est mis bas. Donc, en buvant un peu de whisky, ça se calmait, ça prenait une autre tournure. Alors, il pouvait se supporter, parce qu'au fond, il ne se supportait pas. Il se sentait insupportable, sans doute.
Quand un homme devient un peu la marionnette de lui-même, il ne peut pas supporter le regard lucide de celui qui sait comment cette statue ou cette marionnette se sont créées, n'est-ce pas ? Je crois que ce regard de Gaëtan, qui n'était pas du tout cynique, mais qui était quand même très lucide, très aigu, probablement n'était pas supportable pour Malraux à un certain moment.
C'est Pierre Moineau qui parle, collaborateur important de Malraux, et qui évoque le départ dans cette année terrible de 1966 de Gaëtan Picon, l'un des collaborateurs importants aussi du cabinet. Et on entendait auparavant Madeleine Malraux dans le film de Jean-René Boyer, Le mystère Malraux.
Mais alors, quand Moineau revient au ministère, c'est pour couvrir les absences de son ministre. Et quand le général de Gaulle interroge Moineau, voyez-vous souvent votre ministre, Moineau me l'a avoué, j'ai répondu en mentant, j'ai dit oui. Or, le ministre était de moins en moins visible parce que le ministre se rappelait ce qu'il avait dit à son 2e fils qui ne portait pas son nom, qui ne porte le nom de Malraux qu'au petit cimetière de Charonne où il repose avec sa mère et son frère. Il avait dit à Vincent, 2 jours avant qu'il ne meure, « Dis-toi bien que tout ce qui t'arrive ne m'intéresse pas et ne m'importe pas. Lorsqu'on lance ça à un enfant qu'on retrouve mort 2 jours après, on a effectivement un problème psychologique grave. »
Le neveu Alain, qui a été élevé avec les fils, publie un livre cette année où il dit que l'affectif était enterré vivant chez Malraux.
Oui, c'est un père impossible, a dit aussi Alain. Madeleine, qui était la générosité même, disait de toute façon de cette époque où elle avait aussi été répudiée. L'année 66, c'est à la fois l'année où Madeleine sort de sa vie, où Gaëtan Picon démissionne, où Biasini, l'homme qui a fait les Maisons de la Culture, est chassé. Donc c'est un trio de personnes
écartées. Les trois disgrâces.
Oui, les trois disgrâces. Et c'est significatif, encore une fois, du moment où le petit groupe qui est autour de lui essaye d'exister à sa place, ce qui est quand même tout à fait effrayant.
Et le petit groupe qui est autour de lui, ce sont des fidèles, ce ne sont pas les Picons, Moineau, Biasini.
Voilà, il y a le directeur de cabinet, Antoine Bernard, il y a Beuret, qui est son ancien caporal-chef de 40, dont la profession de coiffeur ne le prédispose sans doute pas à diriger la politique culturelle. Et donc ces hommes finissent par se prendre de temps en temps pour le ministre. Bernard m'a dit « c'est moi qui prenais les décisions » et il revenait de l'endroit où Malraux était à l'isolement en disant « le ministre dit, le ministre veut ». Personne ne savait si c'était vrai. Et la position que je trouve très grave de Moineau est de dire « nous connaissions assez la pensée d'André Malraux pour l'exprimer quand lui ne l'exprimait pas ». Or, je soutiens que la mobilité de la pensée de Malraux était telle qu'on ne pouvait pas considérer qu'on pouvait parler à sa place. Or, ils se sont crus les hommes qui pouvaient parler à sa place, et on a vu cette chose extraordinaire d'un texte sur la politique générale culturelle, signé non pas du ministre, mais du directeur de son cabinet. Dans une république normale, cet homme aurait été immédiatement démissionné.
Il aurait été utile que Malraux soit encore mobile, parce que la période connaissait des glissements de terrain. Jean Villard, dès 67. La culture ne peut dépendre de la sagacité d'un seul, mais de la revendication de nous tous. Et 1968, peu de semaines avant mai, le ministère renvoie Henri Langlois, au motif que sa gestion, en effet, n'est pas très proche du quotidien. Mais c'est la même chose, rue de Valois. L'association doit devenir une institution. Malraux le pensait depuis longtemps, mais la réaction va être violente.
Je pense qu'avant un an, la Cinémathèque française sera devenue la Comédie française du cinéma. Qu'à cette cinémathèque clandestine et presque misérable, se substituera la plus sérieuse, la plus étendue et peut-être la plus luxueuse cinémathèque du monde.
Qui est-ce qui veut dire un mot, Jean-Louis Bory ?
Je veux dire 2-3 choses que je sais d'elle. On a accusé cette cinémathèque de ne pas être rentable. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire d'épicier alors qu'il s'agit d'un musée ? Donc pour un pays qui veut, qui tient énormément, et il a raison, à la grandeur et au prestige, avec des majuscules, pour une fois qu'on a quelque chose qui, de l'avis de tous les spécialistes à travers tout le monde, est la première chose du monde, et qu'est la Cinémathèque française, c'est indiscutable, encore plus indiscutable que M. Jean-Claude Killy. Par conséquent, il est bien évident qu'à ce moment-là, quelles que soient ses imperfections de détail, c'est merveilleux, il faut l'entourer d'amour, il faut lui donner tout le fric possible pour que ça continue comme ça. Bon, je voudrais bien savoir quelle est la rentabilité de la Comédie française.
Vous vous rappelez Jean-Claude Killy, c'est un extrait du Masque et la Plume. Jean-Claude Killy, Charles-Louis Foulon.
Grand skieur, remarquable skieur, multi-couronné aux Jeux Olympiques de Mexico, qui va se couvrir d'or à Grenoble. Mais ce qu'on oublie, c'est que là encore, quelqu'un a fait croire à Malraux que Langlois était quelqu'un de dangereux. On lui a dit c'est Hérostrate, de la même façon que Hérostrate s'est occupé de détruire une bibliothèque prestigieuse. Eh bien, les films qui menacent à cause du nitrate de brûler, tout cela va disparaître parce qu'il n'y a pas de gestion. Et Malraux a admis, puisque la gestion et lui faisaient 5, a admis qu'effectivement il fallait faire quelque chose, et il a fait quelque chose qui lui a attiré effectivveni une masse d'inimitié considérable. Ça a été un échec d'ailleurs, et Langlois est revenu dans ses fonctions. Et il y a eu un admirable dessein de Fezzan faisant dire à Pompidou « il va falloir que je blanchisse Malraux ».
Mais à la même époque, après que le petit monde du cinéma s'est ligué contre Malraux dans l'affaire de la Cinémathèque, le petit monde du théâtre, en mai 1968 et dans les semaines qui suivent, va se réunir à Villeurbanne et va prolonger la réflexion que je citais de Jean Vilar. On ne peut plus dépendre de cet homme-là, organisons-nous, pensons par nous-mêmes.
Et puis surtout, nous sommes coupables, tous, nous avons abandonné le nom public, nous sommes devenus coupables de son exploitation, nous ne l'avons pas conduit vers une culture où il pourrait penser que la culture, elle va passer par la révolution, et donc nous faisons amende honorable, c'est ce que j'appelle parfois la flagellation de Villeurbanne.
Le nom public, ce sont les gens qui ne vont pas dans les salles.
C'est ça, les 80% de Français qui n'ont pas de pratique culturelle de la haute culture dont rêvait Malraux pour tous, mais effectivement Malraux considérait que c'était à chacun d'approcher la culture et il croyait à la révélation de la culture par le contact direct avec l'œuvre et donc il ignorait totalement la partie éducation à l'art, éducation artistique qui n'a vaguement été entreprise qu'avec Tasca et Lang au début du XXIe siècle.
En tout cas, il s'en va en même temps que de Gaulle après le référendum de 1969. Il meurt en 1976. Où est-il enterré ?
L'enterrement civil de Malraux se fait au cimetière municipal de Verrières-le-Buisson. Sa tombe provisoire est en face de la tombe d'Essiendorf, donc deux compagnons de la Libération se retrouvent là. Mais Madeleine Malraux est à l'initiative du transfert vers le Panthéon, que Jacques Chirac accepte dès le 20e anniversaire de la mort de Malraux. Et Malraux rejoint le 23 novembre 1996 le 6e caveau du Panthéon, où il retrouve René Cassin et Jean Moulin, et donc dans l'ennui sans fin de la mort dont il parlait souvent, ces hommes peuvent aussi contribuer à continuer l'épopée de la France.
Merci à vous Charles-Louis Foulon, je rappelle ce livre qui vient de paraître sur Culture et Démocratie au Havre, et puis celui que vous avez consacré tout récemment chez Ouest France à François Mitterrand.
Homme de passion.
L'émission était préparée par Éline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la réalisation Valérie Aestaray, à la technique Raphaël Rousseau.